Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. Il fait gris dans le Beaujolais et il pleut. Si, j'ai reçu des gouttes en sortant tout à l'heure. Pas beaucoup, mais il pleut. Enfin, après plusieurs semaines plutôt sèches et les températures, elles sont un petit peu descendues par rapport à hier. On attend 11 degrés environ cet après-midi. Au programme de notre émission, on va parler nutrition avec notre diététicienne préférée, Charline Simian. On va parler retraite, si je ne dis pas de bêtises, avec le prof Patrick, on va dire notre prof Patrick préféré, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et avant ça, on va passer un moment par téléphone avec une jeune artiste lyonnaise, l'univers aussi particulier que plaisant. Elle s'appelle Esther. Il paraît qu'elle a pensé s'appeler Esther, mais ça faisait trop de fois Esther. Elle propose une musique pleine de synthé et de douces mélodies avec des textes poétiques en français, une poésie du quotidien, de la simplicité. Et si vous vous dites ça a l'air chouette, il faut que j'écoute ça, et bien la bonne nouvelle c'est qu'elle sera en concert ce week-end, samedi 25 février, à la Mur-sur-Azergue, chez nos amis du quartier Métisseur. Sympathique lieu associatif et culturel. Et si vous ne voulez pas attendre samedi, et ben je vous propose de l'écouter tout de suite. Voici le morceau Oh là là de la chanteuse Esther. Nous sommes ensemble sur Calade, il est presque 12h15. Merci d'être avec nous.
Ça
Ensemble sur Calade.
Et tout de suite, on est en compagnie de Esther. Esther, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment est-ce qu'on peut vous présenter? Musicienne, artiste lyonnaise?
Oui, ça.
Ça vous va?
Ouais, ça me va.
Esther, c'est un projet musical. Ça a commencé quand? Vers 2016, 2017?
C'est à peu près ça, 2016-2017.
Et ça a commencé comment?
Et ben en fait, je suis arrivée en 2015 à l'ENM à Villeurbanne, qui est une école de musique.
Ouais.
Et donc là-bas, j'ai commencé à monter mon projet. J'avais fait déjà de la musique avant. Enfin, je viens d'une famille de musiciens, donc j'en fais déjà depuis longtemps. Mmh. Mais j'avais jamais écrit de chansons à moi.
D'accord.
Et donc j'ai commencé parce que j'ai un ami, en gros, qui m'a poussé et qui m'a proposé de faire sa première partie pour un projet qu'il avait. Et après, ça m'a lancé. Et après, il y a des gens qui m'ont vu à chaque fois que je jouais, qui m'ont proposé des dates. Je ne démarchais pas tant que ça.
D'accord.
Et ça, c'est parti comme ça. Et après, j'ai travaillé mon projet au fur et à mesure des concerts que j'avais.
Ouais. Et là, ça a l'air, quand on voit vos réseaux sociaux, etc., j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de concerts ces dernières années.
Ouais.
Pendant quelques temps, c'était un projet musical pour s'amuser, et ça devient de plus en plus sérieux
Oui, il y avait un moment aussi où mon école de musique me prenait pas mal de temps, quand même.
Ouais, bien sûr.
Et au début, c'était... C'était aussi le temps que j'écris suffisamment de chansons. Au début, j'en avais pas assez.
Mmh.
Et
si on a un auditeur, là, il vient d'allumer la radio, il nous entend et il faut qu'on lui décrive votre musique. Comment est-ce qu'on pourrait faire s'il n'a jamais entendu un seul de vos morceaux?
Eh bien, ça, c'est pas si simple.
Ouais.
Mais on va dire que c'est des chansons en français,
ouais.
Pop. Peut-être, parce que populaire, je pense, et que c'est à la fois drôle et mélancolique.
Ouais.
Suivant ouais, les moments.
J'ai reconnu. ça me va comme. Je suis d'accord. Les inspirations, ce serait quoi? C'est quels artistes qui vous parlent et.
Il y a plein de choses différentes. Il peut y avoir Philippe Catherine.
Ouais.
Pas mal. Il peut y avoir Radiohead. Il peut y avoir après des plus classiques Aznavour, Anne Sylvestre en chanson.
Mm.
Après sinon aussi j'aime énormément Avishai Cohen et je suis pas mal intéressée par cette musique-là.
C'est très très large.
Ouais, c'est très très large.
Et quand vous écrivez une chanson, ça se passe comment?
En général, j'écris à peu près le texte et la musique en même temps. J'écris au fur et à mesure. Je commence par le texte quand même. Enfin, je commence par écrire en écriture automatique.
Mmh.
Parce que pour avoir de la matière. Donc au début, j'écris un peu n'importe quoi. Et tout ce qui me passe par la tête sans avoir de jugement dessus, justement.
Ouais.
Et après, dans tout ça, je récupère ce qui m'intéresse. Je récupère quelques phrases qui sonnent bien et je pars de ça.
Moi, je suis un grand fan de Philippe Catherine et je sais pas pourquoi.
parce que je comprends pas toujours ce qu'il essaye de raconter, etc. Mais c'est peut-être ça qui me plaît dans ses chansons, c'est que je sais pas forcément là où il veut aller, et puis du coup je peux y mettre ce que je veux dedans. Et, les quelques morceaux que j'ai entendus de vous, c'est pareil, je sais pas forcément ce que vous voulez raconter, mais je trouve qu'il y a... Il y a de la poésie, et puis c'est joli, et c'est suffisant. Vous nous avez dit, vous prenez des mots, des phrases, et puis vous récupérez ce qui vous plaît le plus. Il y a des fois, des chansons où vous vous dites, bah là, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ça sonne bien, ça marche.
Ouais, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver de partir. Je pars toujours quand même de trucs que j'ai vécu, ou des trucs que je pense.
Ouais.
Juste des réflexions personnelles, pour que ça soit un peu ressenti. Mais sauf qu'après, je transforme, des fois. Je transforme en fonction des idées. Aussi, ça peut dépendre des contraintes. J'ai fait un atelier d'écriture et des fois, j'avais des contraintes d'écriture.
Ah, et ça, c'est stimulant ?
Ça, c'est assez stimulant, ouais. C'est pas mal du tout. Ça m'aide beaucoup.
Vous avez participé à des tremplins, j'ai vu aussi, où du coup vous avez été confronté à d'autres artistes. Ça se passe comment, un tremplin musical?
Ça se passe. Ce tremplin-là que moi j'avais fait.
C'était à tout bout de champ, c'est ça?
Ouais, c'était à tout bout de champ. On pouvait ou envoyer des musiques ou venir faire une audition en live directement devant un public. C'est ça que j'ai fait. Et après, il y avait plusieurs tours, donc il y avait des jurys qui nous sélectionnaient. C'était assez bienveillant, ça restait assez bienveillant.
Ouais, c'est vrai.
Et après, je suis allée en finale, et en finale, bon, c'est pas allé plus loin, mais...
Et c'était choisi par le public, c'est ça?
Par le public et par un jury aussi, il y avait les deux.
Ouais, il y avait le prix du public, et je crois que vous l'avez eu.
Non, c'est pas moi qui ai eu le prix du public.
Oh, bon, bah, j'ai les mauvaises sources. Très bien. Et quelque chose d'étonnant, c'est qu'un projet qui existe depuis autant d'années, il y a toujours il y a quelques vidéos sur YouTube, mais il n'y a pas eu d'envie d'EP ou encore un album.
Bah justement, là, c'est en réflexion, c'est en train de se monter. Là, depuis peu, je suis maintenant entourée par une boîte de production.
Ouais.
Aussi, qui vont m'aider à ça. Ça s'appelle Tartino Productions.
D'accord.
Et donc, ouais, c'est l'idée, dans pas si longtemps, de faire un EP, même un album.
Carrément l'album directement?
Ouais, peut-être. Ou alors sortir un EP. Enfin, c'est en réflexion.
Il y avait besoin d'une boîte de production? Enfin, il fallait être accompagné pour le faire? Ou c'était qu'avant, il n'y avait pas forcément l'envie?
Non, pas forcément être accompagné pour le faire, mais c'est juste que comme là actuellement je suis en solo,
ouais,
pour ce projet-là, c'est plus facile d'être épaulé et d'être entouré.
Mmh. Ouais, c'est sûr.
Et d'avoir un peu de soutien et de réfléchir à plusieurs, ça m'aide beaucoup, moi.
Alors, il y a quand même eu un gros projet, j'ai l'impression, c'est le clip de Oh là là.
Oui.
Et c'est vous qui avez fait les dessins, les storyboards, etc. C'est vous qui avez créé le...
Ouais.
D'accord. Et c'est...
Ouais, c'est moi qui t'ai fait.
Et utiliser d'autres formes d'expression que la chanson, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît aussi?
Ouais, j'ai fait pas mal d'art plastique et pas mal de théâtre aussi. Et je suis passée par différents arts, ouais. Donc le dessin, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Et il raconte quoi, ce clip? C'était quoi l'idée derrière?
Ce clip ou cette chanson?
Ah, les deux, parce que oh là là, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Non, il a osé faire ça?
Ouais, il a vraiment fait ça. En gros, c'est une histoire d'amour qui déchante. Mm. Et l'histoire du clip, j'avais un peu envie de forcer le trait, mais de manière humoristique, en faisant mourir une personne. Et j'avais un peu cette envie, en général dans mon projet, c'est cette envie-là qui est le fil conducteur, c'est d'avoir en même temps la mélancolie et l'humour et d'avoir les deux choses qui se mélangent, parce que dans la vraie vie, on a souvent plusieurs émotions qui peuvent se mélanger. Mmh. et pouvoir rire de choses tristes ou pouvoir pleurer de moments beaux ou des choses comme ça. Et moi, c'est un peu ça que j'ai envie de montrer. C'est même parce que je trouve que des fois, l'un rend l'autre plus fort ou plus beau encore. Ouais. Quelque chose comme ça.
Et c'est ce contraste que vous allez chercher dans vos œuvres. Alors, c'est peut-être pour ça que les personnages portent des combinaisons dans des paysages naturels. Ils sont, eux, on dirait un peu des Power Rangers ou je sais pas.
Ouais, c'est un peu ça, d'être un peu dans un décalage un peu comme si c'était des personnes extraterrestres ou des personnes bizarres, quoi.
Là, c'est du clip, c'est des trucs, des œuvres enregistrées. Vous serez bientôt en concert ce week-end, le 25 février, au quartier Métisseur, à Lamure-sur-Azergues. Mm-hmm. Ça se passe comment, un concert live de Esther Esther?
Ça se passe jamais de la même manière.
Ouais. Déjà, vous ne m'avez pas répondu bien. À chaque fois que je pose cette question, les artistes, ils se moquent de moi et me disent « ça se passe bien ». Je suis content, merci.
Bon, ça se passe en général assez bien.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous faites sur scène? Qu'est-ce que vous proposez?
Je fais plein de chansons différentes. Et j'ai, on va dire... un peu un personnage qui est mon personnage à moi, qui est un peu moi.
Mais exagéré.
Mais en plus blagueuse, peut-être. Ouais. Ou en plus excentrique, des fois. Et où je me permets peut-être plus de choses quand je suis sur scène aussi. Et donc voilà, j'improvise aussi pas mal. Je peux rebondir pas mal sur ce qui se passe au présent, sur les réactions, sur moi si je fais des bêtises.
D'accord.
Tu peux me moquer de moi.
Très bien. L'autodérision, c'est important.
Ouais.
Et donc des chansons tristes, mélancoliques et drôles à la fois.
Oui.
C'est ce qui nous attend.
Exactement.
Très bien. Et alors ce projet d'enregistrer un album, ça j'imagine qu'il va falloir peut-être quelques mois avant de le voir arriver.
Oui.
Vous pensez que ça se passera dans combien de temps à peu près?
Oh, ça peut se passer dans pas si longtemps que ça.
C'est vrai?
Je pense dans les 6 mois à venir, il y a des chances que ça débarque.
Il y a déjà les chansons décrites qui doivent, les chansons qui doivent faire l'album.
Oui, c'est ça.
Ok, il n'y a plus qu'à enregistrer.
Il n'y a plus qu'à enregistrer, ouais.
Bon, et vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? C'est enthousiasmant, c'est stressant?
Ah oui, ça fait un peu longtemps que j'ai envie de faire ça.
Ouais.
Et puis c'est un peu une manière peut-être pour moi de passer une étape, de passer à la suite des nouvelles chansons.
Ok. De pouvoir, de pouvoir avancer, de dire celles-là, elles sont finies, elles sont sur un CD.
Ouais, c'est ça.
Super.
Enfin, elles seront pas finies, mais qu'il y ait une trace, qu'elles soient installées, quoi. Quelque chose comme ça.
Très bien. Bon, on pourra les écouter du coup sur scène déjà ce week-end, donc je disais le 25 février au quartier Métisseur. Le concert, c'est à 20h30, c'est ça?
Oui, exactement.
Parfait. Merci beaucoup, Esther Esther.
Eh bien, merci à vous.
Très bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on l'écoute encore un petit peu avec son titre Les Oiseaux.
Je sors du métro pour écouter les oiseaux. Je sors du métro pour écouter les oiseaux. Je sors. Je sors du métro pour écouter les oiseaux. Je sors du métro pour écouter les oiseaux encore. J'essaye de m'approcher sans les brusquer. Ils pourraient s'envoler. Je voudrais les entendre plus fort. Qu'est-ce que c'est beau le chant des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter. Je vais avancer un peu encore. Je sors du métro pour écouter.
métro pour écouter les oiseaux. Je sors du métro pour écouter les oiseaux. Je sors.
C'était Esther, avec un morceau qui s'appelait Les Oiseaux. Elle est en concert le 25 février au quartier Métisseur à La Mure-sur-Azergues.
Oh, vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, on parle d'alimentation et de santé. Et pour ça, on retrouve Charline Simian, notre diététicienne. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, on avait commencé à parler il y a quelques semaines de PNNS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ?
Alors oui, parce que je crois que ça date carrément de l'année dernière.
C'est bien possible.
Le PNNS, on avait commencé à évoquer ce plan, qui est un plan en fait de vigilance de l'État pour la population française bien portante et donc qui oriente un petit peu qui devrait orienter les communications, notamment tout ce que vous voyez comme bandeau publicitaire en bas des pubs, justement, manger, bouger, tout ça, ouais. 5 fruits et légumes, pas trop, mais un peu, mais tout ça. Donc, le PNNS gère un petit peu tout ça.
Ok.
Et le PNNS, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était assez vindicatif en disant c'est 5 fruits et légumes par jour, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien.
Ouais, il donnait des ordres.
Des gens qui avaient de l'alimentation déjà troublée et pour qui les infos n'étaient pas forcément nécessaires dans ce sens-là. Mmh. Donc aujourd'hui, les choses ont été modifiées un petit peu et les recommandations sont plutôt sur une incitation à l'augmentation ou à essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Donc il y a, dans ce plan-là, on va dire augmenter, aller vers et réduire. Aujourd'hui, je vais vous parler du augmenter, de ce qui serait nécessaire d'augmenter. Dans notre vie, ça n'est pas que sur de l'alimentaire, il y a notamment de l'activité physique.
Ouais.
Donc le augmenter, il y a une incitation à l'augmentation notamment de la proportion des légumes secs dans ce qu'on va manger, qui ont un intérêt nutritionnel au-delà de leur praticité, qui vont apporter pas mal de fibres par rapport aux autres féculents. Et ça, c'est un intérêt au niveau rassasiant. On essaye d'améliorer la santé des gens avec ces conseils de PNNS.
D'accord.
Donc l'augmentation serait de l'ordre de 2 fois par semaine. En plus, ça va bien avec tout ce qui est obligation dans les cantines de végétaliser un petit peu l'alimentation. Ouais. On peut remplacer des protéines animales par des légumineuses, par exemple.
Très bien.
On reste sur cette idée d'être sur du légume 5 portions par jour, mais on revient sur l'idée que on peut être sur 3 portions de légumes, 2 de fruits, mais on peut être sur 3 de légumes et 1 de fruits. Enfin, il n'y a pas d'obligation véritablement d'être que sur ces choses-là. Et puis, on revient sur le fait que ce n'est pas forcément que du frais. On peut être sur du surgelé ou sur de la conserve au niveau des légumes, chose qui était plutôt jusque-là un peu oubliée. C'est-à-dire qu'on était sur du légume frais ou du légume frais. En réalité, la conserve ou le surgelé, on l'a déjà évoqué, peuvent être intéressants.
Oui, bien sûr.
Il y a une insertion aussi, une incitation à la consommation de fruits à coque. Donc, pour ceux qui ne sont pas allergiques, hein, bien évidemment, on parle de population générale. Alors, c'est toujours le problème des légumes secs, c'est qu'on a tendance, des fruits secs, pardon, c'est qu'on a tendance à les manger un peu en grande quantité, mais un creux de main quotidiennement est recommandé pour leur apport en protéines, notamment protéines végétales, okay. Et puis leur apport d'acides gras oméga 3 qui sont intéressants également. C'est des bonnes graisses en fait.
Ok,
et c'est mais effectivement, pas en trop grande quantité. C'est toujours la problématique de ces trucs qu'on grignote.
Bah, le truc, c'est que ouais, on commence à mettre la main dedans, après, il faut savoir s'arrêter.
C'est pour ça qu'effectivement, ils recommandent vraiment une petite poignée. Donc, c'est plutôt, moi, je recommande plutôt un creux de main, effectivement, et ranger le paquet, parce qu'effectivement, on a une tendance à partir tout de suite sur plus.
Vous êtes
les
30
minutes d'activité. Pardon?
C'est une bonne technique, il faut savoir le faire. Moi, ranger le paquet, c'est vraiment très difficile. Je me lève rapidement.
Oui, ça reste problématique, effectivement, on est d'accord. Ça a vraiment un intérêt nutritionnel par rapport à du chocolat ou des choses comme ça qui vont être moins intéressantes pour le nutritionnel. L'activité physique d'au moins 30 minutes par jour, Donc ça veut dire une activité dynamique où on va augmenter un peu le rythme cardiaque. C'est-à-dire, je vais essayer vraiment de bouger. Et puis, privilégier le fait maison également, qui rentre un peu plus en ligne de compte dans ce nouveau PNNS, de dire qu'effectivement, le produit industrialisé peut être du dépannage, mais que privilégier le fait maison peut être intéressant vraiment à ce niveau-là, quoi.
Oui, et puis économiquement, de toute manière, en général, on s'y retrouve.
C'est clairement une option, effectivement, c'est qu'on s'y retrouve au niveau financier, c'est une certitude, vous avez raison. Financièrement, on a meilleur intérêt à faire soi-même.
Très bien. Et donc, là, j'ai vu récemment une campagne de publicité, les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Ça ferait partie de ce PNNS
Alors, ça ferait partie de l'idée qu'effectivement, on n'en consomme jamais assez, ce qui est une vérité. Hein. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'ai tout le temps faim ». C'est une des solutions de rajouter une petite portion de crudité quand vous avez beaucoup d'appétit, de rajouter des légumes. Ça reste toujours une bonne option. Et effectivement, il n'y en a jamais assez parce qu'on a toujours tendance à les sous-évaluer un petit peu.
Donc si on a faim à la fin d'un repas, une petite clémentine en plus, ça ne fait pas de mal.
Exactement.
Super. Bon, ça me plaît. Très bien. Merci beaucoup, Charline.
Merci à vous et encore désolé pour cette voix.
Bon rétablissement. Merci beaucoup d'avoir quand même pris le temps de nous parler malgré cette petite voix. Bonne journée, bon rétablissement, Charline.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, un petit peu de musique. On écoute Claire qui nous chante Quand je chante, tout simplement.
Que je suis heureuse en amour, je pourrais pas dire, moi je m'éclate tous les jours. Je pourrais pas dire qu'à la fin du mois, je mange pas des pizzas. Mais quand je chante, je chante. Je
Claire, avec le morceau « Quand je chante », une chanteuse qui doit avoir un lien avec Philippe Catherine, on l'a entendu faire les chœurs à la toute fin du morceau. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais enquêter, je vous en parle bientôt.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Allez, on va réfléchir deux minutes avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
On attend aujourd'hui, depuis une semaine, avec impatience, l'épisode 3 de cette
dernière partie.
Série.
Sur la réforme des retraites, oui, tout à fait. Petit récap, hein, on a fait deux autres chroniques déjà. La première, on avait dit assez rapidement que de toute façon, l'argument de l'équilibre comptable ou du déséquilibre comptable pour justifier la réforme n'était pas justifié. Preuve en est le Conseil d'orientation des retraites, qui est quand même la grande référence en France, le confirme, hein, mis à part quelques petits déséquilibres mineurs d'ici à 2030, et encore, ça dépend de la conjoncture. C'est un système qui est équilibré, donc rien ne nécessitait une réforme d'ampleur. Le deuxième épisode a été consisté à répondre à la question, ok, si c'est pas un problème comptable, c'est quoi? C'est un problème politique, en fait, c'est un choix politique. Le choix, il était de faire des économies sur le poste des retraités pour compenser les dépenses gigantesques, notamment au niveau de la politique de l'offre, des mesures type CICE, des mesures type crédit d'impôt, baisse des impôts sur la production, etc. Donc toutes ces mesures d'aide fiscale aux entreprises qui sont absolument gigantesques. Et puis les baisses d'impôts en général aussi sur les particuliers. Donc c'est un choix politique. On avait vu que derrière cette volonté de faire des économies sur le dos des retraités, il y a aussi cette philosophie de faire tout, travailler tout le monde, la philosophie de mettre tout le monde au travail. Il y a toute une vision du monde, une idéologie qu'on avait vue et qu'on avait remonté un petit peu le raisonnement pour voir que c'était très cohérent avec cette vision du monde néolibérale qui est celle de beaucoup de monde depuis les années 80 et notamment de M. Macron. Alors dans cette troisième partie, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit peu quelques points concrets pour dire qui sont les perdants de cette réforme. Parce que chercher les gagnants, vous pouvez toujours y aller. Il n'y a pas beaucoup de gagnants, à part les entreprises éventuellement, mais il n'y a pas beaucoup de gagnants, il n'y a que des perdants. Alors, le 10 janvier, quand elle a présenté sa réforme pour la première fois, notre chère première ministre, Elisabeth Borne, nous a parlé d'une réforme juste, de progrès social et qui ne fera pas de perdants. Ouais. Donc, on va dire, Elisabeth, petite sœur de Pinocchio, hein, regarde-toi, Elisabeth, t'as vu, t'as ton nez qui grandit, là, dans le miroir. C'est pas bien de mentir. Alors, commençons en disant déjà qui ne va pas être trop violemment impacté par cette réforme des retraites. C'est en fait, excusez-moi, les Français et les Françaises qui ont fait de longues études. Parce que avec le contexte des 43 années de cotisation qu'ils doivent accumuler, bon, ça va pas faire grand-chose que la date de la retraite soit à 64 ans au lieu de 62. C'est à peu près à la date à laquelle ils vont devoir partir.
Ils auraient dû faire de toute façon.
Globalement, attention, hein, je parle des Français qui ont fait de longues études, c'est pas tout le monde non plus, c'est une petite partie. Pour ceux et celles qui auraient eu des carrières partielles entrecoupées de cessation d'activité pendant quelques mois ou quelques années, là aussi, ça décale l'âge de départ à la retraite, donc eux, ils seront pas spécialement impactés. Mais on va venir donc aux quantités bien plus nombreuses de gens qui vont être impactés, qui sont un peu les dindons de la farce. Et pour ça, je vais vous parler d'un certain nombre de catégories de personnes. Je vais vous parler des personnes qui ont commencé à travailler tôt. Ensuite, je vous parlerai des femmes. Ensuite, je vous parlerai des seniors et notamment des seniors en précarité. Et je terminerai quand même globalement les actifs en général. Hein. Donc commençons par les personnes qui ont commencé à travailler tôt.
Ouais.
Vous avez commencé à travailler avant 20 ans, il existe en fait des mesures sur les carrières longues qui vous permettent de partir la réforme, à 60 ans. Avec cette réforme, ces personnes devront travailler entre 6 mois et 1 an et demi de plus. D'accord. Alors évidemment, les personnes qui ont commencé à travailler tôt, faut pas rêver, c'est des personnes qui appartiennent aux classes populaires, qui sont sur des métiers, peu diplômés.
Ouais.
Évidemment, il y a eu beaucoup dans ces semaines de débat, des ping-pong entre des affirmations absolument étonnantes de la part du gouvernement et des réponses de gens assez qualifiés. Je vais citer un économiste qui est devenu petit à petit la grande référence de tous les médias, parce que c'était l'économiste qui connaissait le mieux la chanson, c'est Michael Zemmour,
ouais.
Rien à voir avec l'affreux.
Ouais.
Et donc, il publie un petit tweet juste après cette affirmation et il dit, alors très précisément, hein, les personnes nées en 1968 qui auraient débuté leur activité professionnelle à 17 ans, actuellement, elles partent en retraite à 60. Avec la réforme, elles partiront à 61, donc un an de plus. Les personnes, toujours les mêmes personnes, mais qui auraient débuté leur activité professionnelle à 18 ans, actuellement, elles partent en retraite à 60 ans et 6 mois. Avec la réforme, elles partiront à 62 ans, un an et demi de plus.
Mmh.
Les personnes qui auraient débuté leur activité professionnelle à 19 ans partent actuellement à 61 ans et 6 mois en retraite. Avec la réforme, elles partiront à 62 ans, 6 mois de plus. Et enfin, les personnes qui ont débuté leur activité à 20 ans actuellement partent à 62 ans et 6 mois en retraite, et là, elles partiront à 64 ans en retraite, un an et demi de plus. Donc, ces gens-là sont les premiers dindons de la farce.
Ouais.
Ensuite, les femmes. Alors, les femmes, globalement, ça, c'est une étude qui a été mentionnée par le journal Les Échos. Avec ce système de report de l'âge légal, donc de 62 à 64 ans, les femmes partiront à la retraite en moyenne 7 mois plus tard qu'aujourd'hui. D'accord. Ah ouais. Et les hommes partiront 5 mois plus tard en moyenne. Donc attention, là aussi, il peut y avoir des écarts selon les générations, mais globalement, le déséquilibre sera toujours en défaveur des femmes. Résultat, il faut savoir que les femmes ont un quota de 8 trimestres maximum qui leur est donné en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont fait. Eh bien, ce quota de 8 trimestres, il est quasiment annulé par les effets de la réforme. Et donc là, il y a cette espèce de sentiment d'être un peu trahi hein, du côté des femmes. Ce qu'on leur avait accordé pour inciter les femmes à la maternité, eh bien, on leur retire d'une autre main. D'une manière plus globale, les femmes partent plus tardivement à la retraite que les hommes en moyenne. Cet écart, historiquement, se réduisait régulièrement. Le problème, c'est que la réforme va ralentir ce processus de rééquilibrage entre la date moyenne de départ à la retraite des femmes et des hommes.
Mmh. Donc l'égalité homme-femme en prend un coup.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est pour les femmes. Concernant les seniors en précarité, et les seniors en général, on va commencer par les seniors en général. On le sait, je vous l'avais expliqué dans ma chronique précédente, l'Union européenne pousse énormément tous les pays membres à augmenter leur taux d'emploi, faire en sorte que dans toutes les classes d'âge, les gens soient le plus possible en emploi. Et il y a eu, du côté français, bah, évidemment des progrès, hein, puisqu'à partir des premières réformes de retraite dans les années 90 où à l'époque les gens de 60 ans ne travaillaient quasiment pas, et aujourd'hui ben, la proportion des personnes en emploi de 60 ans et plus eh bien, a augmenté de 17 points de pourcentage pour les hommes, 16 points pour les femmes, donc ça a augmenté fortement. Sauf que parallèlement, ce qui a aussi augmenté dans cette même période, c'est la proportion des seniors au chômage. Alors qu'ils étaient environ 2% à être au chômage dans les années 90, aujourd'hui ils sont entre 7 et 8% au chômage. Et ce qui a augmenté aussi, c'est la proportion des seniors en invalidité, qui a augmenté de 6 points de pourcentage. Donc globalement, ces décalages-là vont créer une augmentation des dépenses maladie, il ne faut pas rêver, une augmentation des indemnités chômage, donc quelque part, ce qu'on économise d'un côté, on va malgré tout le dépenser ailleurs, même si ce n'est pas les mêmes sommes, bien sûr. Et surtout, parmi ces personnes, notamment celles qui se retrouvent au chômage, il y a de la précarité. Donc là, je vais parler un petit peu plus précisément des seniors en situation de précarité. Parce que on le sait, hein, arriver. Alors on dit senior, c'est après 55 ans, on va dire.
D'accord.
Après 55 ans, vous vous retrouvez au chômage, pour retrouver du boulot, bien du plaisir. Mmh. Hein. Et donc, des études ont été faites et montrent que les personnes en précarité à 60-61 ans, eh bien, ces personnes, en gros, elles attendaient 62 ans et avec la retraite, si elles avaient accumulé des annuités suffisantes, elles retrouvaient un niveau de précarité moindre, elles retrouvaient des conditions de vie meilleures. Ces personnes, c'est quand même 29% de ces personnes-là, hein, de cette classe d'âge, 1 million de personnes, qui sont ni en emploi ni à la retraite, ils sont dans un entre-deux. Alors 4% sont au chômage, 25% sont en inactivité et donc ils dépendent des minima sociaux, ils dépendent de leurs entourages, etc. C'est des seniors fragiles. D'accord. Évidemment, on s'en doute bien, c'est plutôt des seniors qui sont peu diplômés, voire non diplômés, 36% d'entre eux, plutôt que des seniors diplômés de post-bac. Ils sont seulement 17% à être diplômés post-bac. Ces gens-là connaissent déjà une situation de précarité dans ces années 60-61 ans jusqu'à 62 ans, l'âge où ils peuvent partir à la retraite. Bon, ça va leur faire 2 ans de précarité en plus.
Ouais.
Voilà, vous allez en chier, 2 ans de plus. Mmh. Donc voilà, ça c'était cette deuxième catégorie.
Et puis pour toucher une retraite qui ne sera pas...
Alors, ça dépendra de ce qu'ils ont cotisé, c'est-à-dire le niveau de revenus qu'ils ont eu pendant leur carrière, ça dépend. Hein. Certains peuvent avoir eu des niveaux de revenus suffisants pour avoir une retraite potable, tout dépend des revenus qu'ils ont eu durant leur carrière, leurs 43 années, sachant que la retraite, c'est les 25 meilleures années qui sont retenues. Les causes de cette situation de précarité des seniors, on les connaît, hein, c'est... le fait que les entreprises s'impliquent pour l'instant pas énormément dans la problématique de l'emploi des seniors. Et aussi, ce que j'ai déjà évoqué un petit peu, c'est le fait que les seniors actuels, en fait, ils sont en proportion pas très très diplômés. D'accord. Si on compare avec les seniors allemands, par exemple, eh bien, ils sont plus diplômés que le sont nos seniors à nous, nos plus de 55 ans. Donc, inévitablement, ils sont plus facilement dans cette situation de précarité. Voilà. Donc ces gens-là vont connaître des périodes de difficultés assez douloureuses. Autre catégorie, on va finir avec, si je n'ai pas oublié, voilà, la catégorie plus générale, les actifs en général. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les actifs en général quant aux effets de cette réforme? Eh bien, on sait déjà que les actifs qui sont nés entre septembre 1961 et l'année 1972 devront travailler plus longtemps que prévu, alors qu'ils pensaient partir à la retraite. Certains même pensaient partir cette année, c'est râpé. Donc eux, ils vont vraiment y perdre un maximum. Là, ils vont se prendre de plein fouet. Les générations nées après 73, elles devaient déjà travailler 43 ans. La réforme, selon l'âge auquel ils ont commencé à travailler, pourrait ne pas les toucher trop fort. Mais après, ça va dépendre justement de cet âge de début d'activité professionnelle. Voilà, donc voilà un petit peu la liste de toutes les personnes, les femmes, les seniors, et notamment les seniors précaires, les actifs nés entre 61 et 72, et les personnes qui ont commencé à travailler tôt. On remarque quand même que, globalement, c'est toutes des personnes assez fragiles, hein, ouais. D'accord ? Des personnes fragiles, issues de classes populaires plutôt, bref, tous les gens que M. Macron n'aime pas, tout est cohérent. On finit pour rigoler un petit peu avec... au moins un argument de M. Macron, du gouvernement Macron, qui nous ont sorti, évidemment, ça leur est revenu dans la figure très vite, en mode boomerang. Ils nous ont annoncé début janvier, pour compenser toutes ces conditions très dures que je viens de décrire, que la retraite serait de 1200 euros net minimum.
Oui.
Alors au début on dit c'est formidable ça, puis très vite on dit non, c'est pas formidable en fait. Pourquoi? Parce que cette mesure ne vaudra que pour les carrières complètes avec des conditions extrêmement restrictives. Pour avoir droit à cette somme là il faudra que les salariés justifient d'une carrière complète à temps plein, dans le privé et avec un niveau de salaire qui n'aura jamais dépassé le SMIC.
Ouais.
Donc en 2018, il y a des experts de la DARES, un institut de recherche statistique sur le travail public, qui faisait une étude sur les effets du SMIC, en se basant sur un échantillon de 2,5 millions de personnes, avait fait une analyse sur 21 ans et avait montré qu'en fait, ceux dont le salaire n'avait jamais dépassé le SMIC sur 21 ans, ils étaient que 48 personnes sur 2,5 millions. Donc même si on étend à tous les retraités, ça ne va pas faire beaucoup de monde cette histoire-là. D'accord. Voilà, donc...
Il nous aurait menti alors?
Bah non, en fait, on le sait désormais, parce qu'après, ça s'est su, hein, Michael Zemmour a fait son travail dans les médias, qu'en fait, certaines personnes vont toucher des petites augmentations de 30-50 euros de leur retraite, et ça s'arrêtera là. Mmh. Les personnes qui ont une retraite à 1200 euros sont un nombre infime du total des retraités. Donc, on s'est un petit peu moqué de nous, en quelque sorte. Ah, voilà, oui. J'ai fait un petit peu le tour, on pourrait rajouter une dernière petite bricole, on a le temps ou pas?
Ah bah bien sûr, ouais.
Ouais, on a le temps.
On est plus à ça près.
Voilà. Dernière petite bricole, même si j'ai fait un peu le tour, si on revient au point de départ de toute la question des réformes des retraites, c'est, je l'avais dit dans ma première chronique, c'est au départ une dégradation du rapport entre le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de personnes retraitées.
C'est une question démographique.
Voilà, de plus en plus de retraités et par rapport à un nombre d'actifs qui n'augmente pas aussi vite. Y a juste un élément qui est oublié quand on mentionne cet élément-là qui est incontestable, bien sûr, c'est qu'il faut intégrer un autre élément dans la réflexion, c'est le fait que les actifs sont, au fil des années, de plus en plus productifs. C'est l'augmentation de la productivité des actifs, c'est-à-dire leur capacité à créer de la richesse dans un même temps donné, qui progresse énormément. D'accord ? Et donc, il y a des économistes et statisticiens de l'INSEE qui ont fait une petite étude rapide, d'accord, qui ont dit, évidemment, oui, il y a une dégradation du rapport entre actifs et retraités, avec de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, ça c'est sûr. Mais, ont-ils dit, cette dégradation est plus que compensée par les progrès des actifs en termes de productivité. Ils produisent beaucoup plus à temps équivalent. Et que donc, en fait, la création de richesse sur le long terme, donc sur toutes ces années qui sont écoulées, à se partager, elle progresse. Mmh. Donc en fait, derrière cette dégradation, il y a la question de la productivité qui compense largement la dégradation du rapport entre les actifs et les retraités. Voilà, donc c'est un petit élément en plus aussi, hein, pour essayer de mettre du réel derrière le storytelling gouvernemental.
Ouais, c'est voilà. Que de l'argent, il y en a toujours, il y a toujours de la
richesse.
La richesse,
elle est créée, oui. On crée suffisamment de richesse. Ouais,
qui pourrait pourquoi pas payer des retraites en fait, il suffirait de savoir.
À partir de là, on en revient à ce que j'avais dit dans la deuxième chronique, c'est une question de choix politique.
D'accord. Merci beaucoup, prof Patrick.
J'en ai terminé.
À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se quitte avec quelques notes de musique. À tout bientôt, ciao ciao.
J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère. Faut lui enlever le droit de vote. Elle confond Miss France et le gouvernement. Personne lit aucun programme, tout le monde débat quand même. Y'a peu de chances qu'on s'en sorte. J'dis ça, j'vote pas, cherche pas de logique là-dedans. La Marseillaise et la drill parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut plus rien dire et disent la merde tout le temps. Quand je t'ai fait, tout le monde faisait semblant de travailler. On tuait le temps à dire du mal des autres employés. T'es foutu, t'avais juste à faire une grande école. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Tous les faits divers sont des craquages aux alcools. C'est ce qu'on préfère, lève ton verre. À la France. À la 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 France. À la 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 la. À la France. À la 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 France. Wow. À la France. À la 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 France. À la 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 la. À la France. À la 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 France. Wow.